Chapitre 20e. Une nuit, pendant une halte, nous nous aperçûmes que Durut avait disparu. Malgré la rancune que je lui gardais, je dis qu'il fallait revenir sur nos pas. Il était peut-être tombé de fatigue. Si nous étions à sa place, nous serions bien contents qu'on ne nous abandonnât pas. Mes camarades, avec mauvaise grâce, dirent que j'avais raison. Nous retournâmes en arrière. Nous avions fait quelques centaines de mètres que des murmures commencèrent à s'élever. On n'arriverait jamais avant l'aube à l'étape que nous avions fixée. Durut, que nous croyions rester en arrière, était peut-être en avant. La bussière criait « Durut ! Durut !» Je le priais de se taire. Si Durut était tombé d'épuisement, il était bien incapable de répondre. « Il s'est peut-être tout simplement perdu, » dit-on. « Ce que nous faisons, observa Billot, ne sert à rien. Nous ne sommes même pas sur le bon chemin. » Nous ferions mieux de continuer notre route, suggéra un autre. J'insistais encore pour que nous continuions nos recherches. Personne ne m'écoutait plus. Mes camarades n'avaient qu'une idée, marcher, marcher toujours de l'avant. Je proposais de nous arrêter, d'attendre le jour afin de pouvoir continuer nos recherches d'une façon plus efficace. Roger s'approcha de moi et me dit à l'oreille « Ça suffit, n'insiste pas. » Je ne sus que répondre. Enfin, je m'écriai « C'est tout de même bizarre. Où a-t-il bien pu passer ?» Nous nous remîmes en route. De temps en temps, malgré ma défense, l'un de nous s'aidant de ses mains en cornet appelait à tue-tête. Soudain, je fis une supposition qui me glaça. Durut s'était rendu au premier village. Il avait tout raconté. Demain matin, quand nous arriverions au terme de l'étape, nous aurions la bonne surprise d'être reçus par les Boches. Je fis signe à Roger. Je lui dis ma crainte. Il me répondit qu'elle était excessive. Pourtant, il n'en avait pas l'air tellement convaincu. « Moi, continuai-je, j'en suis sûr. Si nous ne voulons pas tomber dans une embuscade, il nous faut modifier notre itinéraire. » Comme ils gardaient le silence, j'appelai mes camarades. Ils parurent ne rien comprendre au danger que je leur signalais. Je leur dis qu'à mon avis, il valait mieux changer de direction, quitte à faire quelques kilomètres de plus. « Encore ?» s'écrièrent-ils. Ce fut à ce moment que je pris la grave décision de me séparer d'eux dès que je le pourrais. Je leur dis, pour me justifier, que si nous étions repris, je courrais, moi, des risques beaucoup plus grands qu'eux. « Nous sommes partis ensemble, nous ne nous quitterons pas !» s'écria Robert Jacques, comme si, en quittant mes camarades, j'allais être à l'abri de tout danger. Je ne bronchais pas, bien que je sentisse une grande frayeur m'envahir. Je gardai le silence. En marchant, je réfléchis à ce que je devais faire. Devais-je profiter de l'obscurité pour m'enfuir, ou bien rester avec mes camarades au risque d'être arrêté avec eux? Je remarquai que certains me jetaient de temps en temps un regard mauvais. Je m'arrêtai soudain. Ils s'arrêtèrent également. « Je ne vais pas plus loin, » dis-je. « Pourquoi ?» me demanda Momo. « Je ne veux pas me faire prendre. » Je perçus des murmures. « Mon cas est beaucoup plus grave que le vôtre, » continuai-je. « Vous, on vous reconduira au camp, mais moi, on me fusillera. Vous comprenez la différence ?» Roger intervint. « Allons, allons, il ne faut pas vous disputer. Nous sommes tous dans le même cas. Dans la situation où nous sommes, nous n'avons pas le droit de ne pas être d'accord. » Certains approuvèrent. « Dans ces conditions, je reste avec vous, » dis-je. « Mais qu'on cesse de me surveiller. » Des exclamations fusèrent de partout. On ne m'avait jamais surveillé. Qu'avais-je été imaginé? J'avais la manie de la persécution, etc. Nous repartîmes. J'étais toujours, bien entendu, décidé à fausser compagnie à mes camarades. Je me sentais prisonnier. J'avais l'impression très nette que tout le monde savait où se trouvait Durut, qu'un piège m'était tendu, que nous allions tous être arrêtés au lever du jour, mais que mes camarades avaient reçu l'assurance qu'il ne leur serait fait aucun mal. Ils m'avaient trahi pour se sauver eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'avaient pas voulu perdre de temps en recherches inutiles, eux pourtant si chatouilleux dès qu'il s'agissait de solidarité. Je fis part de cette impression à Roger. Il me répondit que je rêvais, que si jamais il s'apercevait de quelque chose, il prendrait ma défense. Il partirait avec moi, s'il le fallait. Il ne s'était pas trompé. Rien de ce que j'avais craint ne se produisit le lendemain. Dans l'après-midi, deux autres de nos camarades se séparèrent de nous. Le premier était entré dans une petite ferme pour y demander à manger. Nous guettions son retour à une centaine de mètres. Comme il ne revenait pas, nous commencions à nous inquiéter. Nous nous consultions pour savoir ce que nous devions faire lorsqu'il reparut, mais sans musette ni capote. Il nous annonça qu'il avait trouvé des gens très gentils qui s'étaient offerts de l'héberger. Il ne revenait que pour nous faire ses adieux. Il ne voulait pas nous quitter sans nous avoir revus. C'était bien gentil de sa part. Avant même qu'il fût reparti, nous ne pûmes nous empêcher de remarquer que cette façon d'agir n'était pas très chic. Il est naturel que chacun agisse dans son intérêt. Mais malgré le sentiment que nous ne pouvions rien reprocher à notre camarade, nous étions unanimes à trouver qu'il n'était pas très sympathique. À ce moment se produisit un incident vraiment curieux. Nous allions le quitter, nous lui disions « Tant mieux pour toi, tu as de la chance, profites-en, etc. » lorsque la bussière l'entraîna à l'écart. Nous comprîmes qu'il lui demandait si ses braves fermiers n'accepteraient pas un deuxième pensionnaire, auquel cas il posait instantanément sa candidature. La réponse dut être négative, car la bussière nous rejoignit peu après, sans même se donner la peine de nous cacher sa déception. Je dis à Roger que je trouvais cette façon d'agir encore plus moche que celle du pensionnaire agréé. Roger me fit une réponse qui me plut beaucoup. « Qu'est-ce que tu veux ? » dit-il en faisant un geste désabusé où je sentis à la fois un profond mépris et une profonde indifférence pour cette petitesse. Quant au second de mes camarades, le moine, il nous quitta de façon plus étrange encore. C'était le plus simple, le plus pauvre, le plus timide d'entre nous. Depuis notre évasion, il n'avait pas dit un mot. Je crois que dans la vie civile, il était plongeur de restaurant. Bien qu'il y eût plus d'un an qu'il était mobilisé, il avait les ongles épais et noirs, le visage et le cou sillonnés de crevasses. Il savait à peine lire et écrire. Au cantonnement, sans qu'on le lui eût demandé, il avait toujours fait de lui-même les plus gros travaux. Nous marchions depuis plusieurs heures, lorsque nous croisâmes de véritables vagabonds, des hommes sans âge chargés d'un baluchon. En nous retournant, nous constatâmes que notre camarade était resté avec eux. Il nous fit un signe. Quelques instants après, il vint lui aussi nous faire ses adieux. Il nous annonça qu'il était très heureux. Les vagabonds allaient lui procurer ce que nous désirions tous avidement, des vêtements civils. Ils allaient ensuite le conduire en lieu sûr. Le hasard d'une rencontre avait suffi à notre camarade pour se faire des amis et lui faire oublier des souffrances supportées en commun. À la suite de cette nouvelle défection, nous éprouvâmes tous un profond malaise. Ce qui nous unissait, et certains avaient l'air de considérer ces liens comme éternels, était vraiment peu de chose. Au fond, je m'en rendais compte, à présent, quelque exceptionnelles que fussent nos aventures, nous étions des étrangers les uns pour les autres.